Notre amour n'est pas encore sans limite et il nous faut bien souvent des motivations concrètes, quand ce n'est pas égoïste, pour nous tourner vers Dieu et faire jaillir de nos cœurs la louange. Apprenons donc au moins à voir ses bienfaits et à lui en rendre grâce. Ainsi, tout particulièrement, la miséricorde du Seigneur et le pardon qu'il nous accorde devraient être pour nous un motif inépuisable de louange. Et Augustin va prendre appui, par exemple, sur le psaume 102. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il va nous dire, pour bénir sans cesse le Seigneur, « N'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu les oublies, tu resteras muet. » Dieu nous a rendu ce qui ne nous était pas dû. Toi, tu as rendu le mal pour le bien. Lui t'a rendu le bien pour le mal. Dieu, en effet, veut être loué, mais c'est pour ton profit et non pour s'élever lui-même. Autrement dit, la louange nous construit dans notre être d'enfant de Dieu. Et si nous avons des difficultés à louer, eh bien partons des bienfaits de Dieu. Si tu les oublies, tu resteras muet, nous dit Augustin. Et puis alors, il va franchir un degré supplémentaire en nous disant, c'est en partant d'une louange motivée par les bienfaits de Dieu que nous arriverons finalement à le louer gratuitement, simplement parce qu'il est bon. Simplement parce qu'il est bon. Parce qu'il est digne d'être aimé. En effet, nous sommes appelés à devenir ses amis, mais nous sommes encore ses serviteurs. Il dit cela parce qu'au fond, il cite ce verset du psaume 134, « Louez le Seigneur, vous, ses serviteurs. Quoi de plus juste, dit-il, quoi de plus digne, quoi de plus agréable ?» En effet, si les serviteurs ne louent pas Dieu, ne louent pas leur Seigneur, c'est orgueil, ingratitude, impiété. Là, nous avons une piste pour nous examiner nous-mêmes intérieurement. Le manque de louange ou la difficulté à la louange, ça peut être dû au fait d'être centré sur soi-même par orgueil. Ça peut être dû à un manque de gratitude. Et ça, c'est vraiment assez caractéristique au fond de notre inconversion, l'ingratitude. Ça peut être dû aussi à un manque de piété au sens d'amour filial, l'impiété. Aussi, il nous faut demander à l'Esprit Saint de mettre en nous un esprit filial pour louer Dieu, un esprit de fils. Le serviteur ingrat qui refuse de louer son maître n'en reste pas moins serviteur. Que tu loues ou ne loues pas, tu es toujours serviteur. Si tu le loues, tu le rends propice. Si tu ne le loues pas, tu l'offenses. L'exhortation du psaume est donc bonne et utile. Elle nous invite à louer le Seigneur. Nos louanges ne le grandissent pas, mais c'est nous qu'elles grandissent. Ça rejoint ce que dit Saint Paul, je crois, au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nos louanges ne grandissent pas Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter à Dieu. Il est parfait en lui-même. C'est nous qu'elles grandissent. Nos louanges n'ajoutent rien à sa bonté, comme nos critiques ne lui enlèvent rien. C'est toi qui, en louant, deviens meilleur. En le blâmant, deviens plus mauvais. Lui demeure ce qu'il est, la bonté. Vous voyez encore une perspective intéressante ici. Pour apprendre à louer Dieu à partir de ses bienfaits, n'oublie aucun de ses bienfaits, et puis ensuite, louer Dieu en lui-même, pour ce qu'il est, sachant que cette prière nous construit profondément dans notre être d'enfant de Dieu. Une troisième réflexion pour aller plus loin encore, plus profondément, c'est que la louange, en fait, nous est donnée par Dieu lui-même. La louange nous est donnée par Dieu lui-même. Pourquoi louer Dieu par des psaumes. Parce que fondamentalement, le réservoir à louange pour Augustin, ce sont les psaumes. Augustin a bien compris que les psaumes ont une place tout à fait particulière dans la prière chrétienne. Ils sont une prière, et en particulier une prière de louange, donnée par Dieu lui-même. Ils sont à proprement parler une louange que Dieu s'adresse à lui-même et dont il nous fait la grâce de pouvoir être les instruments. Ce qui en particulier vous fait comprendre aussi pourquoi en nous donnant par exemple la prière des heures, l'Église peut nous proposer de rentrer dans des psaumes qui ne représentent pas fondamentalement l'état de notre subjectivité au moment où nous les prions. On peut être amené à prier un psaume de supplication dans la détresse alors qu'on est dans la joie. On peut au contraire être amené à prier un psaume de joie et de louange alors qu'on est dans la détresse intérieurement. Nous prions, nous rentrons dans une prière qui nous est donnée par Dieu, qui nous est donnée par l'Église, et qui est la prière du corps tout entier, du Christ total, dans tous les états d'esprit qui peuvent se présenter. La louange que Dieu s'adresse à lui-même. Alors vous avez cette citation à propos du psaume 144, « Louez le Seigneur avec vous, voilà mon désir, dit-il à ses interlocuteurs. Lui-même a daigné nous le permettre, encore faut-il que la louange que nous lui disons trouve son juste équilibre. » De peur d'offenser par un excès ou par un autre, celui-là même qu'elle veut louer. C'est pourquoi nous cherchons dans l'Écriture divine la meilleure façon de le louer, prenant garde de ne pas nous en écarter, ni à gauche ni à droite. Car j'ose l'affirmer très cher, c'est afin d'être convenablement loué par l'homme que Dieu s'est loué lui-même. Elle ne peut s'appliquer à Dieu, cette règle qui est donnée à l'homme, qu'un autre te loue, mais non ta propre bouche, dans le livre des Proverbes. Car faire sa propre louange, c'est de la part d'un homme une impudence, de la part de Dieu, c'est miséricorde. C'est étonnant, hein, comme perspective. De la part de Dieu, c'est miséricorde, c'est-à-dire que c'est pour nous, pour nous permettre d'entrer nous-mêmes dans la louange, pour nous apprendre à louer. Dans cette citation, c'est intéressant, saint Augustin dit « Il faut dans la louange trouver un juste équilibre. » Un juste équilibre. Et son réflexe, c'est d'aller chercher dans l'Écriture la meilleure façon de louer Dieu, de se rapporter tout de suite à l'Écriture. Un réflexe important. Nous n'allons pas chercher dans des recettes, dans des livres de spiritualité particulière, nous cherchons dans l'Écriture et nous prenons garde de ne pas nous en écarter ni à gauche ni à droite. Ça, c'est un critère important et Augustin va rester collé à cette perspective constamment. Toujours en disant, nous puisons dans la louange que Dieu s'adresse à lui-même et que par miséricorde il nous a transmise. Voilà qui doit réconforter celui qui connaît sa faiblesse et qui se sait dépendre en tout de la grâce, autrement dit, du don de Dieu. Car le fait même de pouvoir louer est un don de Dieu. Le fait même de pouvoir louer est un don de Dieu. Et les louanges que nous lui adressons ne sont véritables que si elles nous viennent de lui. Et non de nous-mêmes. Ça encore, c'est vraiment important comme critère. On peut se dire que, effectivement, de ce point de vue, vérifier la qualité biblique et théologique de nos cantiques, par exemple, des chants que nous employons, c'est important parce que, effectivement, plus les chants religieux seront nourris de paroles bibliques venant de Dieu, plus nous resterons dans l'axe. Plus les louanges exprimeront la subjectivité ou tel courant de spiritualité. En disant ça, je pense à, comment dire, à une petite pénétration de l'esprit Nouvel Âge dans certains aspects, troisième vague du renouveau charismatique, où on exprime par exemple la survenue de l'Esprit Saint en termes assez liquéfiés, cool. Abreuve-moi, enfin, c'est très liquide, si j'ose dire. On est là dans une perspective assez subjective de ressenti, au fond, et qui peut dériver vers le nouvel âge, qui l'a peut-être déjà fait. Bon, de ce point de vue, la qualité des chants de l'Emmanuel, par exemple, c'est intéressant, parce que y a plus c'est nourri de références bibliques et des psaumes. Plus c'est nourrissant et vraiment dans l'axe de recevoir une louange qui vienne de Dieu. Plus ça va exprimer des sentiments du moment ou enfin, des choses plus particulières, plus on va s'éloigner, on risque de s'éloigner. Donc c'est intéressant dans les recueils de chants que vous avez toujours de regarder ça. Et il y aurait tout un travail à faire là-dessus d'ailleurs. Et aussi toute une compréhension à avoir comment pour au fond proposer une pastorale ou proposer une entrée dans un courant spirituel, on se sert des cantiques, on se sert du chant pour faire entrer les gens dans une certaine perspective. Que chacun de nous exhorte et excite son âme et lui dise: Mon âme bénit le Seigneur. Psaume 102. Et nous tous, nous qui partout sommes frères en Christ, nous sommes un seul homme dont la tête est au ciel. Que cet homme unique exhorte lui-même son âme et lui dise: Mon âme, bénis le Seigneur. Il obéit, il obtempère, il le fait persuader, non par des dons reçus de nous, mais par les dons de celui qui bénit notre âme. La première phrase, que chacun de nous exhorte et excite son âme et lui dise: Mon âme bénit le Seigneur, montre bien que la louange met en œuvre la volonté. C'est un acte de volonté. Parce que c'est un acte d'amour au fond, et que l'amour est un acte volontaire. Donc, nous devons nous exhorter, nous pousser dans ce sens: Mon âme bénit le Seigneur. Augustin a cette perspective que nous sommes un seul corps, un seul homme. La tête est au ciel, le Christ est la tête. Et au fond, c'est toute l'Église qui doit s'exhorter, s'exciter à bénir le Seigneur. Voilà, donc c'était une troisième perspective. La louange est un don de Dieu. Elle est donnée par Dieu lui-même et nous devons rentrer plus profondément dans ce don qui nous est fait. À partir de la citation qui vient d'être faite, on peut pénétrer dans une quatrième réflexion qui est de nous faire comprendre que la louange est la louange du Christ total, la louange de la tête et du corps, la louange du Christ et de l'Église.